Rendez-vous, citoyens! Le rendez-vous au carrefour de votre quotidien.
FM, émission Rendez-vous citoyens. Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, 18h-19h, troisième mardi, 10h-11h sur 106.3 FM et fpp.net. Rendez-vous citoyens, une émission qui s'intéresse à tout à chacun, individu, collectif, association, engagé dans les enjeux de transformation sociale, souvent au niveau local. Aujourd'hui, le titre de l'émission, la protection sociale en France. Une longue histoire qui va des mutuelles jusqu'à la sécurité sociale, qui s'étale fin 18e, 19e, 20e. Pour en parler avec nous, on accueille Jean-Claude Boual. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Donc on rappelle, Jean-Claude, que tu es président du CAC, collectif des associations citoyennes.
Oui.
Tu nous dis en deux mots encore une fois de quoi il s'agit.
Le collectif des associations citoyennes, c'est un collectif, comme son nom l'indique, qui rassemble des associations directement, des réseaux associatifs locaux, départementaux, nationaux, en nombre assez important, éventuellement aussi des individus qui veulent adhérer au collectif et qui se bat contre la marchandisation du monde associatif, la marchandisation des économies et la volonté que les gouvernements, depuis quelque temps, veulent mettre en avant pour pousser les associations vers le marché, vers la concurrence entre elles, concurrence entre elles et concurrence avec des entreprises privées.
Alors, du monde associatif à la question de la protection sociale, on n'est pas loin, puisque tu nous indiqueras que le mouvement associatif a participé à cette émergence de la protection sociale. Mais tu as été aussi donc ancien secrétaire général de la Fédération CGT de l'équipement et membre de la commission exécutive de la CGT. Et au sein du ministère de l'équipement, tu as été chargé de mission sur les questions de services publics en Europe et de la question de l'Europe sociale.
Voilà,
c'est bien ça ?
Notamment, oui.
Notamment, hein, parce que la liste est longue. Tu participes à beaucoup de structures. Hein, alors, dans ce petit ouvrage que je présente tout de suite, « Bref historique de la protection sociale en France ». Donc, tu as senti le besoin de rédiger cet ouvrage dans le cadre du CAC, hein, du collectif des associations citoyennes. Et le sous-titre de ce livret, c'est l'associativisme, de l'associativisme à la marchandisation, quelques repères pour comprendre les rapports de force et poursuivre la lutte. Donc, Jean-Claude, pourquoi le besoin d'écrire ce livret aujourd'hui ? Bref historique de la protection sociale en France.
Mais parce que dans les débats que nous avons au collectif des associations citoyennes avec les réseaux associatifs, notamment le débat qui a commencé en 2014 avec la volonté affichée du gouvernement de mettre en place des contrats à impact social, les fameux social impact bonds.
Les CIB en anglais.
En anglais, dont on a déjà parlé ici d'ailleurs,
ouais.
Et qui sont de véritables partenariats publics-privés dans le domaine du social de façon à faire financer les multinationales par le social. Là, l'objectif, c'est de faire du bénéfice avec les questions sociales. Beaucoup de réflexions nous sont remontées, notamment de jeunes générations qui nous disent « Mais nous, on n'aura pas de retraite ». Notre protection sociale va diminuer, la sécurité sociale, ça va disparaître. C'est-à-dire que
c'est presque comme s'ils baissaient les bras déjà.
Oui, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre dans l'esprit
de beaucoup
de gens que effectivement ça allait disparaître. Et face à cette réaction, je me suis dit il faut faire comprendre que la protection sociale que nous avons conquis en France, c'est le résultat d'une longue lutte qui a commencé depuis très longtemps, qui est multiséculaire finalement, et depuis plusieurs siècles, et le résultat de rapports de force à la fois sociaux, économiques, politique, culturelle et démocratique. Et donc, l'objectif de cette petite brochure, hein, c'est pour ça que c'est un bref historique, c'est pas une histoire de la protection sociale, bien entendu, oui. Mais c'est de faire voir cette trajectoire de lutte depuis toujours pour que effectivement on ait un minimum de protection sociale dans son pays. Et ce mouvement, il est pas que français, il est notamment au niveau au niveau européen. Donc c'est très important de le comprendre par rapport à ce qui se passe en France et par rapport à ce qui se passe dans la construction européenne également.
Très bien. On va revenir sur tous ces points après un petit moment de musique que Gabriel nous a choisi. Merci Gabriel. Hot Mama, One More Time Jazz Band. Avec Jean-Claude, on va tenter donc de faire un bref historique de la protection sociale en France. C'est le titre du livret que tu as écrit dans le cadre du collectif des associations citoyennes. Tu nous as expliqué en introduction le besoin de rappeler que la protection sociale n'est pas arrivée ex nihilo comme ça, mais a été l'objet de nombreuses luttes, de nombreux rapports de force qui perdurent. Et pourquoi pas, cette lutte ne continuerait pas aujourd'hui, puisque tu avais l'air de dire que certains que tu croises comme ça se disent « bon, bah, la sécu, on n'en aura plus, la retraite, on n'en aura plus, c'est comme ça ». Alors qu'en fait, on peut toujours lutter aujourd'hui, non ?
Bien sûr, et finalement, la protection sociale de demain sera celle que les générations de demain acquerront par la lutte. Il ne faut pas se faire d'illusions. Parce que quand on regarde notre système, cette protection sociale, que ce soit les retraites, que ce soit les remboursements de médicaments, la santé, la sécurité sociale, sont basées sur la richesse qui est créée au moment T, et nous dépensons en retraite ou en protection sociale, en logement social, la richesse de ce moment T. Donc, c'est faux de dire que demain, il n'y aura pas de protection sociale, puisque demain, on créera aussi de la richesse. Le peuple français continuera à travailler. Il créera de la richesse. Donc, il y aura de la richesse créée et il y aura possibilité d'avoir une protection sociale à partir de cette richesse créée. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, péril à la demeure en tant que telle. C'est vraiment une question de rapport de force entre, d'un côté, quelques-uns qui veulent accaparer le maximum de profits, et on le voit bien aujourd'hui, 1% qui possède autant que la moitié de l'humanité, et de l'autre côté, justement, les gens, la masse des gens qui ont besoin d'une protection, de vivre dans des conditions dignes, et qui pour cela, inévitablement, doivent se battre pour acquérir ces conditions dignes.
Et a priori, le pays n'est pas plus pauvre qu'il y a 100 ans ou 50 ans. Plus.
Le pays, il n'a jamais créé autant de richesses. Le pays n'a jamais été aussi riche. Bien plus riche qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand on a créé la sécurité sociale. Bien plus riche qu'au lendemain du Premier Empire en 1814, quand les premières mutuelles de type nouveau se sont constituées. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer à avoir un niveau de protection élevé dans ce pays, même s'il y a vieillissement de la population, ce qui est une réalité. Mais vu le niveau de richesse créée aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté majeure à avoir une protection sociale de haut niveau. C'est une question de répartition de la richesse créée, tout simplement.
Alors, revenons un peu sur les termes et les définitions qu'est-ce qu'on met dans protection sociale ? Protection sociale, c'est plus large, par exemple, pour nous, que la sécurité sociale. La sécurité sociale fait partie de la protection sociale. Qu'est-ce que recouvre le principe de la protection sociale, c'est quoi ?
Mais si on le prend au sens large, effectivement, c'est toute une série de dispositions qui permettent à la population de vivre dans des conditions de dignité et de sécurité du lendemain suffisantes pour qu'ils puissent faire face aux aléas de la vie.
Alors, les aléas de la vie, c'est quoi ?
Les aléas de la vie, c'est la maladie. C'est le décès d'un proche qui fait que vous vous retrouvez avec moins de revenus ou des difficultés à régler. C'est des accidents du travail. Toute une série de choses.
C'est le vieillissement et donc la retraite.
Le vieillissement, bien entendu. Enfin, c'est pas un aléa de la vie. Ça fait partie des choses qu'il faut traiter.
C'est beaucoup dès qu'on a perdu ces possibilités de production, ces possibilités de travail.
C'est faire face aussi à des événements naturels et des catastrophes naturelles. C'est des choses de ce type-là, de façon à ce que, même si vous perdez votre travail, par exemple, c'était un des buts de la sécurité sociale, même si vous perdez votre travail, vous puissiez avoir des revenus suffisants pour vivre et faire vivre votre famille, et que vous ne vous retrouviez pas dans la misère et dans l'insécurité totale. Donc ça comprend le logement social. D'une certaine façon, ça comprend également l'école gratuite. Ça comprend bien entendu tout le système de santé, le système de retraite derrière, le système d'allocation familiale. La couverture des accidents du travail, etc., etc. C'est pas simplement la sécurité sociale et le taux de la sécurité sociale. C'est effectivement plus large.
Et il faut rappeler, avant, il y a encore 200 ans, tout ça n'existait pas du tout et les gens n'avaient rien, quoi.
Mais il y avait, avant la Révolution, il y avait des corporations, mais c'était très limité dans les corporations et pour une petite partie des gens.
Alors, corporation, tu peux définir ?
Mais, c'est-à-dire, c'était des organisations, par exemple, de maîtres menuisiers, de maîtres charpentiers, de maîtres cordonniers, etc., qui avaient un système d'organisation et de solidarité entre eux pour justement prévenir les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans leur vie. Mais la majorité, effectivement, de la population n'était pas couverte.
Toute l'agriculture.
Toute l'agriculture, mais même aussi les ouvriers. Il y avait déjà beaucoup d'ouvriers, oui. Même avant la Révolution. La révolution industrielle, le capitalisme a commencé à... La marchandisation des choses, ça a commencé dès le XIIIe, XIVe siècle, donc c'est pas nouveau. Et les gens, effectivement, n'avaient pas vraiment de garantie. Ils tombaient malades, soit ils guérissaient, soit ils mouraient. Il n'y a qu'à lire Les Misérables de Victor Hugo, par exemple. On voit bien que c'était pas aussi simple.
Et alors, tu as parlé de corporation, et corporation, on est passé... Donc, organisation comme ça, par métier, et on est passé aussi à ce qu'on appelle la mutuelle ou le mouvement mutualiste. Qu'est-ce qu'on entend par la mutuelle ?
Alors, c'est-à-dire, quand on regarde l'histoire, la Révolution française s'est faite notamment contre ces corporations-là qui engonçaient et qui limitaient le développement de l'industrie. Il faut bien voir que la Révolution française, 1789, c'est une révolution libérale au plan économique.
Oui, c'est ce que tu m'indiquais. Alors, c'est les droits de l'homme, au niveau économique, c'est libéral.
C'est des avancées importantes, mais au niveau économique, c'est libéral. Donc, en 91, il y a les décrets qu'on appelle d'Allard, qui était un conventionnel, la loi Le Chapelier, qui interdisent les corporations, et c'est-à-dire qui interdisent les rassemblements, notamment d'ouvriers, pour qu'ils puissent se défendre.
Donc, tout d'un coup, finalement, on recule sur ces points-là, presque.
Mais ce n'était pas un recul pour eux, c'était pour permettre le développement de l'industrie, la liberté du commerce. Pour eux, ils ne le voyaient pas comme un recul à l'époque. Il ne faut pas faire forcément d'anachronisme. Ils le voyaient comme ça. La protection des gens n'était pas vraiment leur sujet essentiel. Leur sujet essentiel, c'était le développement économique de la marchandise, enfin de l'économie capitaliste, quoi, finalement, et de l'économie libérale. Voilà. Et il était évident que les intérêts des marchands, les intérêts des capitalistes de l'époque, c'était toujours en contradiction avec les intérêts des ouvriers, des gens qu'ils employaient, tout simplement. Mmh. Donc, ils ne voulaient pas que les gens qui étaient employés par ces marchands-là ou par ces capitalistes ou par ces industriels puissent se rassembler pour défendre leurs revendications. Et donc, d'où l'interdiction des corporations. Et ça s'est prolongé après la Révolution, puisque en 1803, donc sous l'Empire, au début de l'Empire, en tout cas le début de
l'Empire Napoléon
de Napoléon Ier, il y a eu des lois interdisant ces rassemblements. Et face à développement donc de l'industrie, les difficultés que rencontraient les ouvriers quand ils tombaient malades, quand ils avaient des accidents de travail, il y a eu effectivement la volonté, le besoin de se rassembler et de mutualiser des biens en payant une cotisation, en créant des sociétés de secours au départ, ça s'appelait souvent comme ça, des sociétés de secours mutualisées, et pour justement aider ceux qui étaient en difficulté.
Donc mutualiser, c'est se regrouper, faire une caisse commune.
Faire une caisse commune avec un but bien, bien précis.
Qui puisse aider en cas de besoin.
Voilà, absolument. Mmh. Un des sociétaires de la mutuelle ou un des adhérents de l'organisation.
Alors, c'était des mutuelles par métier ?
Alors, c'était très compliqué parce que ça s'est fait progressivement et il y a eu des mutuelles par métier. Alors, avec à l'origine d'ailleurs les ouvriers eux-mêmes ou parfois le patron, sous des formes paternalistes, de façon à...
Ça étonne conserver... un petit peu que le patron...
Oui, mais ça lui permettait de conserver la main sur les gens qui l'employaient. Parfois, on a même des mutuelles qui ont été créées conjointement par les patrons et des ouvriers. Et puis, on a des mutuelles qui ont été créées par les églises, aussi bien l'église catholique que les protestants. Avec là
donc
une autre
myriade de mutuelles comme ça sur le territoire.
Et en plus, il y avait aussi des mutuelles locales. Sur un territoire donné, un département ou une ville. Donc, on avait une multitude de mutuelles. Et par exemple, encore en 1944, donc quand a été créée la mutuelle,
la
sécurité sociale, il y avait encore 700 mutuelles sur l'ensemble du territoire. Et des mutuelles, on appelait, par exemple, les mutuelles qui étaient créées par les ouvriers ou les églises, on appelait ça des mutuelles d'affinité. Et puis celles qui étaient créées sur un territoire, c'était des mutuelles territoriales. Donc on avait une multitude de mutuelles. Et malgré cette multitude, il n'y avait qu'une toute petite partie de la population qui était couverte par ces mutuelles avant les lois de 1930 sur la sécurité obligatoire, les assurances sociales.
C'est ça. Il faut pas se leurrer. Le nombre de personnes couvertes par cette myriade de mutuelles restait très petite, finalement.
Très petite, parce que c'était essentiellement les gens qui étaient salariés, qui étaient couverts. La population en tant que telle, n'était pas couverte. C'était les enfants, les femmes, les paysans, etc., sauf exception, parce que rien n'interdisait les paysans de se regrouper, mais c'était pas dans l'esprit et dans la mentalité, la culture paysanne de se regrouper en mutuelle à cette époque-là.
Mais si on revient sur cette interdiction de se regrouper à la Révolution, enfin demandée par la Révolution, certaines décisions de 1789 après, c'est aussi le fait, enfin la mutuelle ou les regroupements corporatistes comme ça, c'est pour aider, mais d'une certaine façon, on discute aussi de nos conditions de travail, on discute de la répartition des pouvoirs aussi, finalement, un petit peu.
Ah ben, bien sûr, parce que quand notamment les mutuelles ouvrières, quand les ouvriers se regroupaient sous forme de solidarité, il était évident qu'ils en arrivaient à parler de leur salaire, de leurs conditions de travail, ce qu'on appelle aujourd'hui les conditions de travail, même si ce n'était pas exprimé de cette façon-là à l'époque. Et donc, les mutuelles servaient aussi de revendication, puisque les syndicats étaient interdits, puisque tous les regroupements étaient interdits, les syndicats étaient interdits.
Par le biais des mutuelles, en fait, on arrivait à une première ébauche de syndicats.
D'une certaine façon, oui, c'était un peu un substitut aussi. Et d'ailleurs, c'était dénoncé par certains, notamment dans la petite brochure, là, je fais état d'une lettre de la Chambre de commerce de Nantes au préfet de Nantes, qui se plaint que les calfas, c'était des ouvriers qui étaient chargés de calfeutrer les bateaux et de les rendre étanches. Dans le port de Nantes et de Saint-Nazaire, se regroupaient en mutuelle et qu'ils en profitaient pour faire des revendications sur leur salaire. Et que ce n'était pas normal. Et que ça, c'était normalement interdit. Et que donc, ils demandaient que le préfet intervienne pour que les calfas arrêtent ce type d'organisation.
D'où l'importance, quoi. On a appelé ça un peu le mouvement mutualiste, en fait. Hein,
mais on a appelé ça l'associationnisme. Parce que là-dessus.
Pourquoi associationnisme ?
Mais parce qu'il y a eu les mutuelles, il y a eu. les coopératives, il y a eu des associations, et puis il y a eu toutes les débats qui se sont greffés là-dessus avec Saint-Simon, Proudhon.
Saint-Simon, tu nous rappelles les dates?
C'est le début du... Saint-Simon, c'est 1760 et quelques, sa naissance, 1825. Voilà, c'est à peu près cette période-là. Et puis après, notamment les révolutions de 1830, 1832.
En 1830, c'est les révolutions d'après la Restauration. Oui. Il y a eu des passages comme ça, on le rappelle, après la Révolution, il y a eu deux restaurations de la monarchie, et qui sont à chaque fois clôturées par des révolutions, des petites révolutions assez courtes.
Courtes
dans le temps, en tout cas.
C'était court dans le temps, parce qu'effectivement, dans les journées de 1930, c'était 2-3-4 jours, mais c'était quand même de vraies révolutions, et celle de 48, ça a été plus long. Ça a commencé en février 48, et ça s'est terminé dans le sang fin juin 48. Donc
à chaque fois, ça part souvent de Paris.
Et l'associationnisme, c'est-à-dire les associations, les mutuelles, y ont joué un rôle très important parce que les revendications que mettaient en avant à cette époque-là les ouvriers, notamment celle de 48 qui était vraiment une révolution ouvrière aussi, c'était la fin du marchandage.
Elle a démarré comment, cette révolution de 48 là ?
Oh, mais il y a eu déjà, comme chaque fois, on va avoir un débat sur 68, semble-t-il, mais 68 n'est pas arrivé comme ça tout seul. Et 1848 n'est pas arrivé tout seul. Il y avait déjà eu des actions très importantes dans les années 30, au début des années 40, avec des grèves très importantes. Il y avait eu les canuts à Lyon, par exemple, dans les années 30, etc. Et donc, c'était quand même un mouvement qui venait de loin aussi. Et ce sont les ouvriers qui se sont révoltés sur la base de revendications sociales liées à leur travail, à leurs conditions de travail et à leur salaire.
Et alors on a obtenu des choses, par exemple, en 1830, 1848 ?
Surtout en 1848, parce que 1830, ça a été court. Il y a eu des choses qui ont été obtenues dans l'amélioration des situations concrètes. Mais en 1848, oui, parce que, par exemple, le droit d'association, le droit de se regrouper, a été tout de suite reconnu par les instances révolutionnaires. Il y a eu des discussions pour augmenter les salaires, pour revoir les conditions de travail. Il y a toute une liste de revendications qui avaient été satisfaites à cette époque-là.
En 48, il y a le suffrage universel masculin.
Il y a le suffrage universel masculin, ça c'était une revendication, mais ça c'est plutôt la frange plutôt de la bourgeoisie qui a mis ça en avant pour sortir du système censitaire et du régime
on vote de si
Charles X,
qui
était un vote tout à fait particulier, avec un système censitaire assez important. Mais il y avait des revendications sociales très fortes qui étaient la fin du marchandage et l'augmentation des salaires. Et déjà la diminution, bien sûr, du temps de travail. Donc, on était déjà sur les fondamentaux. Ça
ne
s'exprimait pas forcément comme ça, comme on l'exprime aujourd'hui, mais on était déjà sur les fondamentaux du syndicalisme, d'une certaine façon.
Et là, retour en arrière, Napoléon Bonaparte, deuxième empereur, arrive.
Le retour en arrière s'est fait avant l'arrivée de Napoléon Bonaparte, parce que dès le mois de juin, le rapport de force entre les ouvriers et la bourgeoisie s'est inversé, après des élections en avril, et il y a eu une répression très, très sanglante. Il y a eu... Alors là aussi, c'est pareil, il y a débat sur les chiffres, mais au moins 10 000 morts.
10 000.
Oui, et c'est complètement oublié aujourd'hui. La révolution de 48, avec ses prémices, la façon dont s'est déroulée, ses résultats et sa répression, est quelque chose qui est très occulté et qui pourtant a une importance très importante, y compris dans notre mémoire collective, si j'ose dire, pour le mouvement ouvrier.
Quand on dit association, on n'est pas encore sur les associations loi 1901.
Non, on est sur le fait de se rassembler sous des formes diverses, qui peuvent être une mutuelle, qui peut être une association, qui peut être une coopérative.
Alors qu'est-ce qu'on a, association, c'était un terme utilisé quand même.
C'était un terme utilisé, oui, puisque ce sont les associations qui vraiment étaient à la pointe de la révolution de 1848, par exemple.
Ouais. Parce que aussi aujourd'hui, quand on entend, c'est ce que je te disais en préparant l'émission, c'est vrai que nous, quand on entend mutuelle aujourd'hui, on pense aux mutuelles qui restent encore bancaires, là, les quelques crédits mutuels ou crédits agricoles.
Qui sont souvent très peu mutualistes.
Voilà, parce que qu'est-ce que ça veut dire une mutuelle dans ce cas-là ? Qu'est-ce qui n'est plus mutuelle dans ces banques-là ?
C'est qu'elles ne se comportent pas. Quand le Crédit Agricole a été créé, c'était des paysans qui se réunissaient de façon à pouvoir s'entraider en se prêtant de l'argent, finalement. C'était ça, le principe. Puis petit à petit...
Une banque populaire.
Oui, une banque...
Au vrai sens du terme.
Au vrai sens du terme, sans forcément
faire... Une banque de partageux.
Faire un profit exorbitant. L'objectif, ce n'était pas le profit. Le profit, c'était d'aider un paysan, un mutualiste qui en avait besoin et qui pouvait donc, comme ça, accéder plus facilement à un crédit pour...
Pour une mauvaise récolte, comme dit Gabriel.
Oui, pour faire face à une mauvaise récolte ou pour développer sa ferme, etc. Et petit à petit, il y a eu des dérives et aujourd'hui, ces banques-là se comportent exactement comme n'importe quelle banque privée, en dégageant du profit, en faisant de l'optimisation fiscale, en allant dans les paradis fiscaux, etc.
On a et eu puis quelques... ce n'est plus vraiment administré. Dans les mutuelles, il y a l'idée aussi que c'est les personnes concernées, les mutualistes... qui gèrent leur mutuelle.
Ce sont les mutualistes qui gèrent leur mutuelle et un homme, une voix, une femme, une voix. Tout le monde est égal, quel que soit le niveau de cotisation, etc. Là, on est plus vraiment dans cette situation-là. La réglementation aujourd'hui fait que les véritables dirigeants de ces organisations-là, ce sont les directeurs, c'est-à-dire c'est la technocratie, c'est plus la direction démocratique par les adhérents.
Qu'est-ce qui reste du mutuel ? Parce qu'ils gardent le nom quand même.
Il reste le nom et un certain esprit malgré tout, ça dépend.
Il y a quand même des AG, par exemple, des assemblées générales.
Oui, il y a quand même des assemblées générales. Et puis,
mais ce n'est pas des assemblées générales d'actions.
Toutes ne sont pas exactement au même niveau de dérive, disons. Mm-hmm. Donc, il faudrait regarder une par une pour voir exactement où elles en sont. Mais on est dans un système où la concurrence les pousse de plus en plus vers une conception strictement bancaire du système.
Et pour faire ces parallèles comme ça historiques, il y a un autre terme qu'on emploie tous les jours encore aujourd'hui pour un mutuel, c'est la complémentaire santé. Enfin, c'est la mutuelle qui complète la sécurité sociale.
Alors, ça,
qu'est-ce
c'est...
qu'elle a de mutuel?
Il y a là de vraies mutuelles, puisque dans les complémentaires, vous avez deux grandes catégories de complémentaires, et c'est pour ça que le terme complémentaire cache aussi des choses très différentes. Vous avez de véritables compagnies d'assurance, comme AXA.
Donc là on rappellera que l'assurance, elle cherche à faire du profit.
Le but, c'est d'abord de faire du profit. Alors, ils assurent les gens, bien entendu, mais c'est d'abord de faire du profit. Et puis, vous avez de vraies mutuelles, comme les mutuelles de fonctionnaires, comme les mutuelles d'entreprises, etc., qui, elles, sont financées par des cotisations des adhérents et des fois un apport, pour, notamment dans le privé, par le comité d'entreprise. Mais c'est financé par les adhérents et c'est géré normalement par les adhérents. Alors avec maintenant le code de la mutualité, puisque tout ça a été tout à fait codifié, et il y a des lois très précises sur le fonctionnement des mutuelles, mais ce n'est pas du tout la même pratique que les compagnies d'assurance, qui sont des compagnies capitalistes.
Oui. Alors il y a un autre moment, on va écouter un petit morceau, on va voir la surprise, et puis on y revient après, ce moment de 1936, qui est un nouvel apport, le Front populaire. On écoute un petit passage tiré d'un clip de Monsieur Cassaro pour la classe améliorée. Voilà, c'est un site un peu d'éducation. Donc de 1936 sur les lois sociales du Front populaire. Et ce passage se termine par une musique de Mireille et Jean Sablon, fermée jusqu'à lundi.
Le patronat et la CGT négocient à l'hôtel Matignon des accords qui seront signés le 7 juin. Mais le 11 juin, ils sont encore plus d'1,5 million à faire grève quand le jour même au Parlement, Léon Blum fait voter la loi sur les conventions collectives et les congés payés. Puis la semaine de 40 heures. Petit à petit, les grévistes vont reprendre le travail et partir en vacances.
Si le 2 en arithmétique est le chiffre le plus charmant.
Deux semaines de congés payés, Des centaines de milliers de travailleurs vont profiter des billets de train à tarif réduit mis en place par le sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs, Léo Lagrange.
C'est toi qui m'entraîne, c'est moi qui t'emmène. Et lorsque tu donnes un bon coup de pédale, je pédale.
Même si la semaine de 40 heures attendra 30 années avant d'être réellement appliquée, en l'espace de 2 mois, le Front populaire a rempli l'essentiel de ses engagements sociaux. Les réformes révolutionnent le quotidien. C'est l'embellie.
On s'aime en faisant du tandem. Je t'aime en faisant du tandem.
Souvent, les ouvriers partent en vacances pour la première fois de leur vie, découvrent la montagne ou la mer. La naissance d'une nouvelle culture populaire au-devant de la vie. Au-delà même des lois sociales, un autre bouleversement intervient. Le gouvernement, en parlant au nom des ouvriers, leur rend une dignité. Pour un temps, l'État est avec le peuple. Léon Blum écrit. Il est revenu un espoir, un goût du travail, un goût de la vie. La France a une autre mine et un autre air. Le sang coule plus vite dans un corps rajeuni. Tout fait sentir qu'en France, la condition humaine s'est relevée.
Vous êtes prête ?
Oui, les temps de mettre mon chapeau, un peu de poudre et je suis à vous.
Faites-vous, mon chou, faites-vous, tu fais si beau.
9, 10, 11...
Midi. Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt, quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos.
Alors, Jean-Claude, le Front populaire, il est arrivé comment ? C'est pareil. On n'a pas eu tous ces acquis comme ça par un coup de baguette magique une fois encore.
Non, bien sûr, mais ce qui est intéressant dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est que on l'a pas dit au départ, mais par exemple, les vacances, qui est quand même un grand acquis du Front populaire, ça fait partie de la protection sociale.
Voilà, c'est parce, ça. Oui, pour que, toi, ça, oui, ça oui, fait partie sûr, de la protection sociale.
Parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît naturel. Oui. Et on n'imagine pas qu'on puisse remettre ça en cause. Mais c'était un acquis formidable. Vous vous imaginez que ça représente pour un patron de devoir payer au départ 15 jours et puis après 3 semaines, 1 mois, un ouvrier
à rien faire.
Et c'est pour lui une violence insupportable. Et donc, c'est très important et ça permet au contraire aux salariés, à l'ouvrier, de se refaire une santé, comme on dit, c'est-à-dire de se reposer, de faire autre chose que simplement être à la chaîne ou travailler pour quelqu'un d'autre et de penser à autre chose, de penser à lui, de penser à sa famille. Donc, c'est tout à fait essentiel. C'est-à-dire que être en bonne santé, ce n'est pas seulement physiquement, c'est aussi mentalement. D'ailleurs, c'est la définition de l'ONU, de la santé, de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est très, très important. Donc, c'est pour ça qu'il faut le voir dans ce sens-là, la protection sociale.
C'est pour ça que tu as bien intitulé ton livret historique de la protection sociale pas seulement la sécurité sociale.
Et pas seulement la sécurité sociale, qui est rétrécie un petit peu dans le vocabulaire les choses. Et effectivement, le Front populaire... C'est forcément une longue histoire, parce qu'avant le Front populaire, c'est vrai qu'il y a des grands moments comme ça qui scandent l'histoire. On a parlé des révolutions de 1830, 1848, on aurait pu parler de la Commune de Paris de 1871. Et puis il y a eu des lois quand même sous la Troisième République, au début de la Troisième République, dans les années 80, à partir des grandes lois sur les municipalités, en 84 la loi sur les syndicats.
1884
La loi sur les syndicats, la loi de le droit de grève qui avait été acquis avant, dès 1864, même sous Napoléon III. Et puis, la loi de 1901 sur les associations, qui était en même temps ambiguë, mais qui a été l'objet d'un très long débat, parce que la bourgeoisie n'en voulait pas de cette loi-là, puisque c'est la capacité qu'ont les citoyennes de s'organiser par eux-mêmes. Et en même temps, la loi essayait un peu de les contrôler. Donc,
c'est vrai que tu le rappelles, les lois de... L'accès au syndicat et l'accès à l'association, c'est deux grandes lois importantes.
Ben
donc,
oui.
Rappelez-nous,
les syndicats, c'est 1884.
Oui.
Et la loi sur les associations, c'est 1901.
Donc là on accorde la possibilité définitive de se rassembler, de pouvoir s'organiser collectivement.
Oui, après 20 ans de travail. Et si on fait un parallèle avec aujourd'hui, dans un sens plus large, au niveau européen, comme par hasard, il n'y a pas de loi pour une association européenne, un statut européen. Et les instances communautaires l'ont refusé, ça, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une société civile qui puisse s'organiser au niveau européen, pour des raisons politiques évidentes.
Ah oui, de la difficulté, justement, d'organiser des contre-pouvoirs au niveau européen.
Bien sûr, d'organiser des contre-pouvoirs européens. Donc on voit bien que c'est extrêmement profond, ce problème de pouvoir, et de pouvoir s'organiser également pour le peuple, tout simplement, pour les gens, pour pouvoir dire ce qu'ils ont à dire dans la vie. Puis après, il y a eu la loi de 1905. On est au lendemain d'un discours d'Emmanuel Macron devant les évêques de France. C'est assez effarant, quoi, de voir des choses de ce type-là. Et la loi de 1905, c'est aussi une loi qui porte sur l'organisation de la société, de la société civile, puisque derrière, il y a les organisations culturelles. Donc, tout ça a participé à ce que les mentalités évoluent et ce que les gens apprennent à se saisir et à s'occuper de leurs propres affaires.
Tous ces regroupements et toutes d'une certaine façon, les patronats avaient deviné juste. En se rassemblant, effectivement, on commence à réfléchir, on commence à penser à la protection sociale.
Et puis 95, il y a la création de la CGT, réaction avec la théorie de l'Église, les théories sociales de l'Église, avec l'encyclique du pape, création de la CFTC en 1919. Donc on voit que tout ça, il y a eu un bouillonnement et il y a eu beaucoup de grèves à ce moment-là. Dans les années 20, dans les années 30, qui aboutissent au début des années 30 sur les lois sur les assurances sociales, qui sont effectivement des assurances obligatoires pour les salariés, mais dans le privé. D'accord. Dans le privé. Et là-dessus vient 36 avec les revendications qui ont abouti, justement, 15 jours de congés payés, la semaine de 40 heures, l'école obligatoire prolongée jusqu'à 14 ans, ce qui était un acquis très important aussi à l'époque, les comités d'entreprise, et on voit bien le couplage comité d'entreprise-vacances, puisque les comités d'entreprise, tout de suite, ça a été le grand moment de l'éducation populaire, de toute une série de choses, du tourisme social, etc. Toute une série de choses se sont mises en place à ce moment-là.
Alors, ce qu'on s'aperçoit aussi dans l'histoire, c'est que à chaque fois, ces grands acquis sociaux, c'est dans des lucarnes historiques, quoi. C'est-à-dire, c'est dans des petits moments, des fois sur 2-3 mois, on arrive à choper ces acquis. Comme 36, il les a fait passer, le cartel là, de gauche là, les a fait passer à peine arrivé au pouvoir, et après, ça aurait été trop tard.
Oui, c'était le Front Populaire, mais bien sûr, parce qu'il y a des moments où il y a un rapport de force favorable. Et effectivement, si on ne sait pas profiter de ce rapport de force favorable, on le perd, le rapport de force. Et ce rapport en 36, il a été créé par les grèves et les occupations des usines, essentiellement. C'est ça qui... Parce qu'au départ, le Front Populaire n'avait pas toutes ces revendications-là. Les congés payés n'étaient pas prévus dans le programme du Front Populaire.
Ah, mouvement gréviste qui a imposé ça aux nouveaux arrivants.
C'est très important, le fait que les gens puissent se rassembler, puissent se battre sur leurs revendications et sur leur situation concrète telle qu'ils la vivent.
C'est ça. Et on se rappelle que rien... cette petite phrase, hein, rien n'est acquis ou quoi.
Oui, c'est-à-dire que j'ai repris une phrase d'Ambroise Croizat
Ambroise Croizat, on en parlera tout à l'heure.
Oui, qui est
à l'origine de la sécurité sociale.
Un des grands organisateurs de la sécurité sociale en France, puisqu'il était ministre du Travail à cette époque-là, au lendemain de la guerre, et qui disait ne me parlez pas d'acquis, mais parlez-moi de conquis. Et on voit bien que derrière cette idée-là, c'était l'idée de lutte, effectivement, qu'il y avait. Et on sait que ces conquis-là ne sont jamais conquis définitivement, qu'il faut toujours se battre pour les maintenir, pour les améliorer. D'où la petite brochure, d'où ce que j'ai dit au début. Tu vois, on voit bien qu'il y a une certaine logique quand même dans tout ça.
C'est ça. Et donc, après ces grands acquis conquis de 1936... la guerre éclate, et pendant la guerre, à partir de 1943, le Conseil national de la résistance, tu vas nous expliquer un peu de quoi il s'agit, commence à penser à des grandes lois sociales et universelle cette fois-ci. C'est-à-dire, il y a cette idée que c'est pour tout le monde.
Déjà, les lois sur les assurances obligatoires au début des années 30 avaient cette idée d'universalité. Mais ça ne touchait que les salariés, ça ne touchait pas quand même toute la population. Et c'est vrai que pendant la résistance, donc, puisque après 36, malheureusement, il y a eu 39 avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la France a envahi, etc. Et pendant la résistance, les forces de la résistance se sont réunies. Alors, on ne va pas raconter d'histoire.
Alors, en tout cas, il faut rappeler que dans les forces de la résistance, il y a beaucoup de courants différents.
Mais dans les forces de la résistance, finalement,
il y a aussi des personnalités.
Dans le Conseil national de la résistance, on retrouve effectivement les gaullistes, qui étaient une partie très importante de la résistance, après l'appel du général de Gaulle dès 1940, les communistes, les socialistes qui étaient résistants, et il y avait les syndicats, aussi bien de la CGT que la CFTC, puis c'était les deux seuls syndicats qui existaient à l'époque. Et c'est dans cet ensemble politico-social, société civile, si on peut dire.
Alors, un tour de force pour les rassembler.
Oui, Jean Moulin, ça a été long, ça a été difficile, effectivement. Jean Moulin y a joué un rôle tout à fait essentiel. Bon, tout ça, c'est une histoire qui mériterait une émission à elle toute seule, parce que c'est un épisode extrêmement important, effectivement, de notre histoire et de la résistance. En tout cas, ce Conseil national de la résistance réussit à se mettre en place, et il est sur le territoire, et c'est pas le gouvernement d'Alger ne viendra qu'après. Mais en discussion, effectivement, un programme de gouvernement pour après la libération.
C'est ça, on pense déjà à la libération.
Déjà à la libération, et en disant comment on va sortir de cette guerre, et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là pour que notre pays reprenne une vie normale et se développe. Voilà. Et dans ce programme de résistance, de la résistance, ce programme du CNR, il y a effectivement l'idée d'une protection sociale pour tout le monde. Voilà ce qu'ils disent à ce sujet. Alors c'est une idée générale au départ. Disent, nous, combattants de l'ombre, exigeons la mise en place d'un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion par les intéressés et l'État. Voilà, donc c'est un principe qu'ils mettent en avant. Et tout de suite, même avant pratiquement la libération totale du territoire, le premier gouvernement qui est issu de la résistance, avec le général de Gaulle à sa tête, met en œuvre ce programme de la résistance, du CNR, et c'est Ambroise Croizat, qui était communiste, qui est désigné ministre du Travail et qui est chargé de mettre en place cette sécurité sociale.
On va justement écouter un petit passage d'une conférence de Michel Etiévent qui présente Ambroise Croizat et l'apport de la sécurité sociale.
Il va traverser, ce Ambroise, 14 prisons en France. Ce sont des élus, avec les droits communs, les boulets aux pieds. 14 prisons en France avant d'être déporté au bagne d'Alger. C'est l'antichambre du bagne de Cayenne. Et là, il va vivre 2 ans entre le sirocco, la dysenterie, les coups, les boulets aux pieds, il faut le rappeler ça. Et en 43, il faudra attendre 43 pour qu'il soit libéré. Vous savez, il y a eu le débarquement anglo-américain. Ambroise Croizat donc est libéré en février 43. Et là, il va rejoindre la commission consultative qui s'est installé autour du général de Gaulle, le futur gouvernement provisoire. Il va être président de la commission du travail, délégué par la CGT clandestine. Et là, il va mûrir toutes les grandes réformes qui auront lieu à la libération, en lien direct avec le CNR en France. 43, c'est la naissance du CNR en France. 27 mai 43, Jean Moulin, 18 jeunes qui n'ont pas 20 ans, qui décident de lutter, d'unir toutes les forces de la résistance, et de publier un programme qui nous fait rêver encore aujourd'hui, d'où vont sortir la sécu, les retraites, les nationalisations. Alors que dehors, on déporte, on fusille. Croizat revient en France, avec le général de Gaulle, 1945, c'est les élections. Il est nommé ministre de la Sécurité sociale et du Travail. Hein. Et là, il nous donne un héritage social que je mettrai du temps à énumérer ce soir. Mais comme je vais y revenir, je vais le dire rapidement. La Sécu, c'est énorme. Hein. Les retraites, les comités d'entreprise, c'est lui. La médecine du travail, le statut des mineurs, le statut des électriciens gaziers, la prévention dans l'entreprise, la reconnaissance des maladies professionnelles, toutes les lois sur les heures supplémentaires, la caisse d'intempéries du bâtiment, la réfection du code du travail, le retravail de la fonction publique avec Thorez à l'époque. Un travail considérable.
Alors, on va pas tout écouter. Donc, c'était un petit passage d'une conférence de Thiéven, qui parlait de Ambroise Croizat, donc à l'origine de la mise en place de la sécurité sociale et de toutes les lois que qu'amène la sécurité sociale, toutes les protections nouvelles de la sécurité sociale. Alors, rappelle-nous cette sécurité sociale. Donc, il a indiqué, là, il a fait la liste de tous les acquis, hein, comité d'entreprise, sécurité sociale pour la santé, la retraite, les allocations familiales, les heures supplémentaires, etc. Mais finalement, il y a aussi quelque chose d'important à rappeler, c'est les principes de la sécurité sociale.
Alors, c'est les principes et surtout la philosophie, parce que voilà. Je pense qu'il faut rappeler qu'Ambroise Croizat, lui-même, était fils d'ouvrier. Et était lui-même ouvrier. Et c'était un des dirigeants de la fédération CGT de la métallurgie, effectivement. Donc, il connaissait bien la situation des travailleurs et la précarité, les difficultés dans lesquelles ils étaient. Et je crois que ça a joué un rôle très, très important dans la conception même de la sécurité sociale.
Pour éclairer un peu nos auditeurs, il a été emprisonné, non pas par les Allemands, il a été emprisonné par le gouvernement de la France suite au pacte germano-soviétique, c'est ça. Et comme il était communiste...
Il était député... Après le pacte germano-soviétique, les députés communistes ont été déchus, etc. Et ils ont été emprisonnés. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a été emprisonné.
Après, il a pu ressortir. Voilà. Oui, donc, revenons à la philosophie de la sécurité sociale.
Et ce qu'il a dit dans l'exposé des motifs qui a créé la loi sur la sécurité sociale, donc l'exposé des motifs qui a été présenté à l'Assemblée consultative provisoire à l'époque, il dit quelque chose qui, à mon sens, est tout à fait essentiel et résonne de façon extrêmement importante aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit. Il parle de la sécurité sociale, trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale. Elle, c'est la sécurité sociale, répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l'incertitude du lendemain, de cette incertitude qui crée chez eux un sentiment d'infériorité qui est à la base réelle et profonde de la distinction des classes entre possédants sûrs d'eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse à tout moment la menace de la misère, c'est-à-dire la précarité. Et quand on est on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une période de développement de cette précarité et on revient très fortement en arrière. Et c'est plus que de questions matérielles, c'est aussi une question de dignité et de faire valoir sa propre humanité face à des gens qui, effectivement, ayant tout, sont parfaitement sûrs d'eux-mêmes parce qu'ils sont sûrs du lendemain. Et donc cette idée-là est
ça a amené l'assurance pour chacun.
Tout à fait fondamentale. Et donc, c'était pour ça que... Pour les initiateurs de la sécurité sociale, elle devait être universelle, c'est-à-dire s'appliquer à tout le monde, dans les mêmes conditions, et couvrir tous les risques, ça s'appelait comme ça, y compris la retraite. Je pensais que la retraite n'est pas un risque, mais financièrement et économiquement, on le raisonne comme un risque. Donc, couvrir tous les risques, c'est-à-dire tous les aléas de la vie, ce qu'on a dit au début de l'émission.
Donc, l'universalité, c'est ce qui différencie par rapport aux mutuelles qui existaient avant, qui étaient éparpillées comme ça entre les différents métiers, les différents groupes. Là, c'est vraiment la sécurité sociale, c'est... Pour les 66 millions, millions. À l'époque, c'était pas 60 millions.
C'était 45 à l'époque.
C'était 45.
Mais voilà. C'est effectivement pour tout le monde, donc les enfants, les femmes, les veuves, les retraités.
Ça, c'est quand même une grande.
Alors que c'était pas le cas avec effectivement le système mutualiste, et c'était pas le cas avec les assurances obligatoires des années 30.
Et alors, il y a aussi cette idée d'indivisible. Qu'est-ce qu'on entend par là?
Mais c'est-à-dire que.
Parce que ça a bougé justement.
Ça, ça a bougé. Et le principe, c'était de faire une sécurité, une protection sociale qui était valable pour tout le monde, sur les mêmes principes applicables donc à tout le monde, et avec une seule caisse, de façon à éviter la dispersion qu'on connaissait avec les caisses qui existaient avant, les caisses mutualistes qui existaient avant, qui étaient très, très, très nombreuses à travers le territoire pour les raisons qu'on a dit au début de l'émission, et d'éviter de segmenter. On avait une cotisation qui alimentait la protection sociale, toutes les protections. Et une cotisation qui était partagée en deux, d'ailleurs, une payée directement par le patronat, mais qui faisait partie du salaire, bien entendu, et une qui était payée par les salariés. Ce qui justifiait d'ailleurs que ce soit conjointement le patronat et les salariés, avec une majorité de salariés, qui soient au conseil d'administration de la sécurité sociale et qui dirigent la sécurité sociale.
C'est toujours le cas quand même, cotisation salariale, cotisation patronale, c'est toujours le cas.
Oui, c'est toujours
on
le cas.
On s'est rajouté la CSG.
C'est toujours le cas, sauf qu'on a de plus en plus d'exonérations de cotisations patronales. Oui. Et maintenant, là, depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement et le président de la République ont supprimé les cotisations à la sécurité sociale salariée.
Pour
les bas salaires. Ce qui déséquilibre d'ailleurs la sécurité sociale, d'où l'augmentation de la CSG, oui. D'où la déséquilibre du pouvoir d'achat. Donc pour retrouver du pouvoir d'achat, on va dire, on supprime la taxe d'habitation, ça déséquilibre les finances des collectivités locales, donc on augmente d'autres impôts. Enfin bref, on a là une politique de bonneteau qui est vraiment extrêmement grave. Le principe de la sécurité sociale, c'était bien cotisation patronale, enfin cotisation payée directement par les patrons et cotisation des salariés. C'était donc une partie de la richesse créée qui partait, qui était mutualisée, qui était socialisée pour assurer cette protection sociale.
Le fait de montrer en fait que le salarié participe en cotisant, c'est aussi indiquer qu'il a sa place dans l'administration de la sécurité sociale.
Oui,
alors qu'en faisant disparaître cette participation du salarié, ça laisserait entendre qu'il ne participe plus, donc il n'a pas participé à l'administration.
Mais bien sûr, les cotisations démontraient le rapport direct qu'il y avait entre le salarié et la protection sociale et la sécurité sociale, donc que la sécurité sociale, c'était vraiment son affaire.
C'est un dû, puisqu'il n'y participe.
Et tel que c'était prévu au départ, aujourd'hui on parle beaucoup de commun, mais c'était bien commun, la sécurité sociale au départ. Et le fait de diminuer la part des cotisations dans le financement de la sécurité sociale pour le remplacer par l'impôt fait qu'on étatise et que c'est effectivement à ce moment-là l'État qui gère et non plus les salariés. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui d'ailleurs.
Voilà, parce qu'il faut rappeler qu'au départ, la sécurité sociale, c'est l'administration par les assurés eux-mêmes.
Absolument, il y avait des élections et le conseil d'administration était au départ composé des deux tiers des représentants des salariés élus sur liste syndicale et donc un tiers du patronat, dans les trois quarts et un quart, finis par me mélanger, du patronat qui était élu par les patrons.
Ça s'est un peu renversé, je crois.
Et alors, en 1967, dès le départ, les patrons ont contesté ça parce qu'eux, ils voulaient la gestion à eux tout seuls de la sécurité sociale, bien entendu. Et dès le départ, ils ont contesté. Et en 1967, le général de Gaulle a pris des ordonnances et instituer la parité et à supprimer les élections. Donc les gens étaient désignés par les organisations et il y avait dans les conseils d'administration moitié de patrons, moitié des syndicats. Et avec la division syndicale, les patrons ont fait, comment dire, alliance avec FO, à l'époque, il faut être très clair, et sont devenus majoritaires et c'est vraiment le patronat qui s'est mis à diriger à ce moment-là la sécurité sociale avec l'État.
C'est ça. Donc là, en fait, on aborde un peu cette question que tu appelles ça le détricotage. Hein, c'est-à-dire qu'il y a ce grand acquis conquis de la sécurité sociale, au fur et à mesure des années, il est un peu, on l'attaque un peu de toutes parts, on le détricote aussi un peu dans sa philosophie, on le change un petit peu de nature, et il faut rester vigilant.
Non, il faut rester vigilant, mais on voit bien qu'il a une force extraordinaire, ce système-là, justement parce qu'il repose sur les cotisations et qu'il intéresse tout le monde. Il a donc dans la culture de notre pays, y compris du point de vue démocratique, une force extraordinaire. Donc c'est difficile de l'attaquer de front. Et donc on l'attaque toujours par des biais. C'est pour ça que je parle de détricotage petit à petit, parce qu'on l'attaque par des biais, par une série de lois. Alors, ça a commencé par les ordonnances en 67, comme par hasard des ordonnances. Hein.
Ouais. Bon, on est bien en même temps, c'était une ordonnance, la Sécu, je crois.
Oui, au départ, c'était effectivement une ordonnance, mais on était dans des conditions vraiment très particulières. Ouais. C'était vraiment le lendemain, le pays n'était pas complètement libéré, il y avait encore dans l'Est des parties occupées. Hein. Donc, et à partir de ces ordonnances 67, on a continué avec toute une série de lois. Alors, j'en cite un certain nombre dans la brochure,
bien sûr. Il y a 95.
Mais ça mériterait pratiquement une autre émission pour expliquer comment se fait ce détricotage et comment, même aujourd'hui, la loi... Donc, puisque depuis la réforme de Juppé en 95, la sécurité sociale est contrôlée par l'État, avec une loi qui dit loi de financement qui dit combien on doit dépenser dans l'année, les économies qu'on doit faire, là où doivent porter les économies, etc.
On inverse un peu le regard, quoi. Donc, avant, on avait un besoin et il fallait trouver l'argent. Et comment on fait ? Ben, on fait des cotisations, on se débrouille. Là, on met un cadre financier, on ne doit pas dépasser...
Eh bien, oui, ça, là, on dit on dépense trop pour la protection sociale, donc il faut moins dépenser, et donc on réduit sous presse et on met en avant l'austérité. Et il y a toute une série de mesures qui ont été prises par...
Pourtant, on est plus riches qu'avant la guerre, non ?
Oui, mais ça n'empêche qu'en 2019, en 2018, pour le budget de financement de la sécurité sociale, il a été décidé une hausse du forfait hospitalier, qui avait été instauré quelques années avant, un allègement supplémentaire des charges des patrons. Il a été décidé 4,2 milliards d'économies sur l'ensemble de l'assurance maladie, ce qui explique la situation, notamment en partie, parce que ça vient de plus loin, mais des hôpitaux aujourd'hui. La hausse de la CSG,
qui est un impôt et non pas
une cotisation, et sans compensation pour une grande partie des retraités. Donc on est toujours dans ce détricotage, mais par des mesures comme ça...
En pointillés
et petit à petit.
Avant, l'émission va se terminer. Je pense que c'est important de rappeler en quoi la sécurité sociale et toute la protection sociale fait partie de la démocratie.
Mais je pense que c'est effectivement un élément essentiel de notre démocratie, parce que sans dignité, sans cette sécurité que revendiquait Ambroise Croizat, on ne peut pas être vraiment citoyen. Quelqu'un qui n'a pas de logement...
Quelqu'un qui n'a pas de quoi manger...
Qui est à la rue...
Qui n'a pas de soins...
Il n'exerce pas ses droits de citoyenne.
Il ne va pas aller voter, par exemple,
et il ne va pas revendiquer, parce que sa préoccupation première, c'est d'ailleurs de subsister. Il est là dans la précarité totale, et il est toujours en infériorité par rapport à l'interlocuteur quand il va quémander quelque chose. Donc, c'est vraiment fondamental du point de vue de notre démocratie. C'est un des... pas seulement des fondements, mais c'est une des conditions essentielles de la démocratie dans notre pays, la protection sociale.
Je pense qu'effectivement, ça, c'est important de le rappeler aujourd'hui, puisqu'on parle aussi beaucoup de citoyenneté. Aujourd'hui, tous nos ministres, tous nos politiques parlent de citoyenneté, d'induquer la citoyenneté à la jeunesse et tout. Ben, la sécurité sociale, la protection sociale fait partie de la citoyenneté et de la démocratie.
Ça en est une condition, effectivement, sine qua non. Et donc, si on détricote la sécurité sociale, on détricote la citoyenneté aussi.
Voilà. Le message est passé, j'espère. On rappelle donc, si vous voulez en savoir plus, chers auditeurs, allez parcourir ce petit livret bref historique de la protection sociale en France. Je pense que vous pourrez le trouver sur le site de CAC, Collectif des associations citoyennes. Tu rappelles vite le site, c'est
www.association-citoyenne. .net, tout ça au pluriel. Et puis, vous pouvez vous le procurer en le demandant sous forme de brochure également au collectif des associations citoyennes.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Jean-Claude Boual. Avec la musique, je vais lire une dernière phrase de Ambroise Croizat, dit à l'Assemblée nationale au moment des lois sur la sécurité sociale. Il dit « Jamais nous ne tolérerons que soit renié un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous nous battrons avec la dernière énergie, quitte à en mourir, pour conserver cette loi humaine et de progrès. Merci. Salut à tous. Merci Gabriel. Et Marc, merci. Vous salue. Au revoir.
Au revoir.